Europe 1. 14h-15h, on de la raconte sur Europe 1.
Bonjour à tous. Avec l'histoire d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'atmosphère d'après 1968 et prendre la route de Katmandou. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui est en face de moi, qui s'appelle Philippe Clohagen. Ça vous dit quelque chose ? Forcément. Sa binette est sur la quatrième de couverture de tous les guides du routard depuis 45 ans. Et pour cause, c'est lui qui a inventé le routard. Bonjour Philippe Clohagen.
Bonjour.
J'ai tiré mon histoire du livre que vous avez publié il y a quelques années, qui s'appelle « Une vie de routard » aux éditions Kalman-Lévy. J'ai choisi de raconter le tout début de votre histoire, de votre premier voyage en stop à 17 ans en 1968, jusqu'à la sortie du premier guide de routard. La réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je m'appelle Philippe, Philippe Clohagen. Je suis breton du sud du Finistère par mon père et berrichon de la région de La Châtre par ma mère. Mon père, fils de paysan, était instituteur. Il dirigeait une école catholique privée à Meudon, près de Paris. C'est là que j'ai grandi. Chez moi, les vacances étaient un rituel sacré. Ça a compté. Tous les étés, dans la traction familiale, on partait au bord de la mer. En Bretagne, dans les Landes, sur la Côte d'Azur. Et puis le samedi, j'allais aux séances de connaissance du monde à la salle municipale de Meudon. Ça aussi, ça a compté. Adolescent, le soir, j'écoutais une émission culte sur Europe numéro 1. Campus, de François Jouffa.
Campus.
Et ça aussi, ça a nourri mon désir d'évasion. Ah, il faut que je vous dise, j'ai eu mon bac en 1968. J'ai adoré 68. Cette explosion folle du monde des adultes, j'ai trouvé ça génial. Et c'est juste après, durant l'été 1968, j'avais 17 ans, que j'ai fait mon premier voyage tout seul. Cet été-là, officiellement, mon père m'envoie en Angleterre pour un stage de langue avec mon copain Jean-Pierre. Le 4 juillet 1968, au soir, à 23h, il me dépose à la gare du Nord. Et dans le train pour Calais, je dis à Jean-Pierre « Et dis donc, Jean-Pierre, si au lieu de suivre notre stage de langue, on faisait le tour de l'Angleterre en stop, jusqu'en Écosse, ça te dit ?» Il dit « Ok ». Et c'est comme ça qu'à 17 ans, je passe ma première nuit de routard à Portsmouth, à la recherche d'une piole. Vers minuit, on tombe sur un bobby.
« Que faites-vous dans la rue à cette heure-ci ? » ?»«
We are French. We are looking for a room, but not expensive. »«
Allez à l'armée du salut. À cette heure-ci, c'est tout ce qui est ouvert. »
Et on se retrouve dans un dortoir, entre deux prostituées et des clochards avinés. Je n'ai pas dormi une minute. Et cette expérience a pas mal compté plus tard dans mon désir de créer un guide pour ceux qui font la route. En tout cas, quand je suis rentré de ce voyage en Angleterre, mes parents m'ont trouvé changé. Et après, je suis parti à Pampelune, au Pays Basque espagnol. Et là-bas, j'ai rencontré un Américain, Hort Elliott, qui m'a traîné jusqu'en Andalousie où son père avait une villa. Et à midi chez lui, je me lève avec la gueule de bois et dans le salon, je tombe sur un petit bouquin. Europe on $5 a day. L'Europe à $5 par jour. Un petit guide, pas cher, pour les hippies. Et ce petit livre est en quelque sorte l'ancêtre de mon guide du routard. Le bac de 68, ça c'est de notoriété publique, ne valait pas grand-chose. L'année d'après, je passe un deuxième bac. Et quand arrive l'été 1969, j'ai donc 19 ans. Et je repars, bien sûr. Je rêve d'aller en Turquie, à Istanbul.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous emmène aujourd'hui dans les années après 68. Et je vous raconte la naissance du guide du routard à travers l'histoire de son inventeur, Philippe Clohagen, tel qu'il la raconte dans Une vie de routard, paru chez Calman Levy. Il sera là, bien sûr, tout à l'heure. Les parents de Philippe dirigent une école privée catholique à Meudon, près de Paris. À 17 ans, il s'échappe d'un stage de langue en Angleterre pour faire le tour du pays en stop avec un copain. Et quand arrive l'été 1969, Philippe repart, bien sûr. Bah oui, je repars. Ça m'a trop plu. Mais sans Jean-Pierre. Ses parents sont moins libéraux que les miens. Ils n'ont pas aimé l'évasion anglaise, il y a 2 ans. Donc je pars seul. J'ai 19 ans. Et je pars vers l'Est, vers la Turquie. Et après, on verra. Je prends le métro, je vais jusqu'à Charenton École, je sors du métro et je me colle à la porte de Charenton. Je tends le pouce et une demi-heure après, une voiture s'arrête. Une jolie femme, la quarantaine, dans une 404. Monte ! Et comme ça, j'arrive à Venise. Et puis à Split, en Croatie. Et là, un soir, je tombe sur des camionneurs soviétiques, des tatoués.
« We go to Dubrovnik !»
Les types ne sont pas très engageants. Mais je monte. Et au bout d'une demi-heure en pleine montagne, ils s'arrêtent devant une auberge paumée pour aller se pinter à la bière. Je somnole en les attendant. Une heure plus tard, on reprend la route. On fait quoi ? 40 kilomètres ? Bam ! On manque de verser dans le fossé. La bière ! Là-dessus, on tombe en panne, il répare, on repart. Un peu plus tard, un pneu explose. Et à un moment, je les abandonne. Ce matin-là, figurez-vous, le 11 juillet 1969, c'est le jour où l'homme a marché pour la première fois sur la Lune. Et moi, je me retrouve à Skopje, fatigué et légèrement déprimé. Je me poste à la sortie de la ville. Et comme personne ne s'arrête, je me mets à marcher. Et j'arrive dans une forêt. Et là, pour être honnête, j'ai un petit coup de mou. Je me demande ce que je suis venu chercher là, quoi, à toujours marcher de l'avant. Et puis j'ai faim. La faim est la maladie de l'autostoppeur. Bon, la règle est simple, hein. C'est toujours aux heures des repas qu'un conducteur propose de vous emmener. Et c'est toujours quand les bars et les restaurants sont fermés qu'il vous dépose. Et soudain, je suis là, au bord de la route, dans cette forêt à broyer du noir. Et j'entends au loin une mobilette qui arrive. Une meule Peugeot qui s'arrête pile devant moi.
Salut, je m'appelle Patrick, je suis français. Et toi ?
Salut, moi c'est Philippe, je suis français aussi.
La magie des voyages de routard. Il sort un quignon de pain de sa poche, un pot de confiture et on partage. Je n'avais pas mangé depuis 24 heures.
Tu viens d'où avec ta mob ?
Je viens de Saint-Brieuc.
Et tu vas où ?
Istanbul.
Saint-Brieuc, Istanbul, en mobylette. Et là, il me raconte qu'il a pris la route avec un appareil photo et qu'il l'a jeté à la mer il y a 2 jours, à Dubrovnik.
Ouais, tu vois, j'ai réalisé que cet appareil, ça m'empêchait de rentrer dans mon voyage, quoi. J'étais toujours à l'extérieur, tu vois, à l'affût des beaux paysages, au lieu de faire corps avec l'endroit.
On parle 3 heures comme ça, et on se donne rendez-vous à Istanbul.
On se retrouve devant le consulat !
Et à Istanbul, je vais direct au Pudding Shop, où se retrouvent tous les routards et les babas et les bitniks en route pour les Indes. Il y a un grand panneau à l'entrée avec des messages. Cherche équipier pour traverser l'Iran. Accepte place dans voiture pour Kaboul. Ça part pour le Pakistan, pour l'Inde, pour le Népal, pour Goa, pour Katmandou. Et je retrouve Patrick devant le consulat.
Ah Philippe, oh c'est bien que tu sois là.
Bon, ma mob est naze, hein. Je m'en débarrasse.
On trouve un vendeur de souvenirs pour racheter la mobilette, $30. Et là, Patrick m'annonce son programme.
Avec les $30, je vais m'acheter un âne,
et puis je vais aller jusqu'en Israël, et de là, bah, je ferai le tour de la Méditerranée. Et moi, je rentre à Paris. Je vais rejoindre mes parents près d'Orléans. Ils ont une petite maison de campagne. Je débarque dans le village avec mon sac à dos, un grand chapeau et une veste en peau de mouton achetée au bazar d'Istanbul. J'ai le pouce en l'air et là arrive la camionnette du boucher. Je le connais depuis 10 ans. Il ne me reconnaît pas.
Prends pas les manouches !
Pendant tout le voyage, j'ai tenu un carnet. J'ai écrit ce que je ressentais. Sur la dernière page de ce carnet 1969, l'année de mes 18 ans, j'écris. Mon voyage a duré 48 jours. J'ai discuté avec des jeunes de 20 nationalités différentes. J'ai parcouru 9000 kilomètres, dont 300 à pied. J'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu peur. Mais c'est formidable. Ça vaut le coup de savoir, de l'avoir vécu, de l'avoir fait. L'été qui suit, je ne pars pas. Je me consacre entièrement à mes études. Je veux rentrer en école de commerce. Et c'est là que je rencontre Michel Duval, avec lequel je vais écrire le premier guide du routard. Michel, il est comme moi, il a la passion de la route. Lui, à 17 ans, il est parti seul aux États-Unis. Et l'été prochain, il veut y retourner. Et moi, je veux aller en Inde.
Europe 1. Raconte.
Je vous raconte aujourd'hui toute une époque, quand après 1968, les hippies, les pique-niques, les routards partent vers l'Est, le pouce en l'air. Et dans ce décor, je vais vous raconter la naissance d'un petit livre qui va révolutionner les vacances, le guide du routard. Et je m'appuie pour vous raconter cette histoire sur le livre qu'a publié Philippe Clohagen, son fondateur qui sera là tout à l'heure, « Une vie de routard » chez Kalman Levy. Philippe fait son premier voyage en stop à 17 ans, en 68. Et l'année d'après, il part en stop à Istanbul, en Turquie. Et à l'été 1971, après avoir intégré une école de commerce, à 20 ans, il prend la route des Indes. Ce sont les Beatles qui m'ont donné envie des Indes. D'abord, la sitar de Ravi Shankar dans l'album Sgt. Pepper's. Et puis, la retraite des Beatles dans un ashram au nord de l'Inde. Et donc, début juillet 1971, je suis de retour à Istanbul et je vais tout droit au pudding shop, accrocher un petit papier sur le tableau dans l'entrée. Cherche équipier pour traverser l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Mais les jours passent, aucune réponse. Alors tant pis, je pars tout seul, en train, en direction de la frontière iranienne. Et c'est dans ce train que je découvre la misère du monde. Mes parents m'en avaient parlé, mais elle est là sous mes yeux. Tous ces enfants au crâne rasé qui se jettent sur le train à chaque arrêt et qui réclament une petite pièce.
Une petite pièce, monsieur. Une petite pièce.
Ensuite, je prends un bus et à la frontière iranienne, je rencontre deux routards français. Et on arrive à Téhéran, en Iran, à 4 heures du matin. On finit la nuit sur une pelouse et au petit matin, on se trouve un hôtel borgne près de la gare. Et quelques semaines plus tard, j'arrive en Inde, à Bénarès, ville sainte sur le Gange. Et là, dans le vieux quartier, je croise un gamin. Il a repéré ma montre.
« Viens chez mon père. Si tu veux, il t'achètera la montre. Il te donnera de l'argent. »
J'y vais. J'ai besoin d'argent.
« Je vous propose 300 roupies. Vous rigolez? C'est une IMA. J'en veux 900. »
Et là, le type sort de sous son étal un catalogue de la redoute. « Ma montre vaut 300 francs. » Alors il m'en donne 450 roupies.
Et moi, je me dis que le sentiment de supériorité guette tout occidental. Il faut beaucoup d'efforts pour s'en prémunir. J'avais rêvé de l'Inde. Eh ben, j'y suis. Les vaches sacrées, les rickshaws, les troupeaux de buffles, le Taj Mahal. Je pensais qu'ici, on pouvait atteindre la sagesse grâce à une spiritualité aux antipodes de la société de consommation occidentale. Mais je dois avouer quelque chose. Je suis déçu. La misère qui règne ici est insupportable. Elle est dégoûtante. Elle est révoltante. Et puis les hippies, on les croise partout dans un état de délabrement, de déchéance. À Goa, je croise un Américain shooté jusqu'aux oreilles, les yeux révulsés. À un moment, je crois qu'il est mort. Je n'arrive pas à plonger dans le mysticisme hindouiste, à m'abandonner à cause de la misère, des barrières sociales aussi. Enfin, c'est quand même un comble. En Occident, on veut bousculer notre société, établir plus d'égalité. Et dans ce pays dont on rêve, on est cadenassé par un système de caste, pesant, immuable. Alors oui, oui, je suis traversé par des sentiments partagés. Vers la fin de mon voyage, je rencontre deux jeunes Françaises. L'une des deux, très jolie, me demande pourquoi je prends des notes tout le temps.
Bah, je veux publier un petit guide en rentrant. Pour les voyageurs, les babacools, tu vois.
Du coup, on s'échange des tuyaux. Et je m'aperçois qu'avec ce voyage, j'ai totalement changé de perspective. Je ne flâne plus. Cette idée de créer un guide a tout changé dans ma manière de voyager. Et en rentrant à Paris, je rédige mon guide avec Michel Duval. Lui écrit sur l'Amérique, et moi sur la Turquie, sur l'Iran et sur l'Inde. Et puis je commence à aller voir des journaux. Et notamment Actuel, organe central de la contre-culture à l'époque. Je suis reçu par le patron, Jean-François Bizot.
Bonjour. Voilà, j'ai fait l'Inde et Katmandou. Et j'ai créé un guide pour voyager à bon marché. Cherche un éditeur.
Ah ben tu tombes bien. On fait un numéro spécial route pour le mois de juin. Tu pourrais écrire la partie sur l'Inde, sur le Népal et sur Ceylan.
Alors je fais un article où je donne tout un tas de conseils. Se munir d'une carte d'étudiant par exemple, même périmée, pour payer le train à moitié prix. Au Kurdistan, je conseille d'aller manger chez les religieuses françaises. Et je préviens qu'à l'hôpital d'Herat en Afghanistan, les toubibs sont douteux. Et puis je donne des adresses à Katmandou et des conseils sur la façon de se comporter en Inde. Et après la sortie du numéro spécial route actuel, je me remets à chercher un éditeur. Chez De Noël, on me dit que je suis trop gauchiste. Chez Plon, on est encourageant.
Votre manuscrit sera examiné en comité de lecture.
Mais trois semaines après, on me rappelle.
Vous pouvez venir chercher votre manuscrit, hein. Il n'a pas été retenu. Vous comprenez, nous sommes l'éditeur du général de Gaulle, alors votre guide de routier à côté, c'est pas possible.
Et puis je finis par pousser la porte d'une petite librairie de Saint-Germain-des-Prés, la librairie Jeudalge. On me dit que son propriétaire veut éditer des livres modernes. Et donc je lui fais mon petit laïus, et là, le patron m'interrompt.
« Jeune homme, votre histoire de voyage, je n'y comprends rien. Mais mon adjoint ici présent me dit que c'est moderne, que ça plaira aux jeunes. Donc, si vous voulez, on se met d'accord pour éditer votre guide. »
Je suis fou de joie. Mon guide va être édité. Et on se met d'accord sur un titre. Ce sera le guide du routard. Un seul guide pour raconter le monde entier. On y donne par exemple des conseils pour faire du stop. Se tenir bien droit et non avachi. Paraître détendu, même si vous attendez plus de 3 heures. Ayez surtout un léger sourire aux lèvres, sans exagération. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Europe 1. On de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'aventure du guide du routard, en m'appuyant sur le livre de son fondateur, Philippe Lohagen, Une vie de routard chez Kalman Levy. Il sera là avec moi dans un instant. Philippe fait son premier voyage en stop à 17 ans.
en 1968. Et l'année d'après, il part en stop à Istanbul, en Turquie. Durant l'été 1971, à 20 ans, il prend la route des Indes. En rentrant, il entreprend de publier un guide pour les jeunes comme lui qui font la route. Et il trouve un petit éditeur. Et en 1973, sort le premier guide du routard. Et après, je repars pour préparer une nouvelle édition. Et je repars en Amérique. Et j'arrive à New York. Et c'est un choc énorme. Parce que l'Amérique, chez les Babacool, on crache dessus. Et là, je découvre un pays beaucoup plus intéressant que ce que j'imaginais. Je vais à Central Park, à un concert de John Baez et Bob Dylan contre la guerre du Vietnam. Combat de boxe aussi, au Madison Square Garden. Et je vais voir jouer Charlie Mingus dans une boîte. Et puis je file vers le sud, vers le Mexique. Et quand je rentre à Paris, j'apprends une sale nouvelle. L'éditeur du premier routard est mort, écrasé par un autobus. Et là je me dis, c'est fini. J'envisage même d'ouvrir un restaurant au Quartier Latin. Mais un certain René Baudouin m'invite à déjeuner. Il vient de racheter tout le stock de la librairie Gédalge, et notamment tous les routards invendus.
Qu'est-ce qu'on me dit? Que tu veux changer de métier? Mais t'es complètement con, enfin. Ton idée de routard est excellente. Faut que tu t'accroches. T'auras l'air malin quand un autre fera le routard à ta place. Tu vas me faire le plaisir de chercher un autre éditeur, d'accord? Je vais t'aider.
Quelques temps plus tard, Baudouin organise une réunion avec, entre autres, le patron des guides Hachette. Je lui raconte mes désillusions.
J'ai fait le tour de tous les éditeurs. J'en ai vu 19, vous entendez? 19. Personne n'en a voulu de mon guide du routard.
Et là, le type de chez Hachette se lève d'un bond.
Pour ce qui me concerne, jeune homme, je ne sais pas qui vous avez contacté chez Hachette. Mais vous n'êtes pas venu me voir, c'est certain. Parce que moi, ça m'aurait intéressé, votre guide du routard.
Et là, il me tend sa carte de visite.
Je voudrais vous voir le plus vite possible, jeune homme.
Eh bien, il nous en a commandé 4. 4 guides, à sortir l'année prochaine. L'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. On a un peu hésité. Et finalement, on a dit banco. Et là, ça a vraiment commencé.
Voilà donc pour cette histoire, Philippe Clohagen. Et l'aventure continue chez Hachette. C'est-à-dire que depuis 45 ans, vous êtes chez le même éditeur. C'est rarissime, ça.
Ah ben, il n'y a pas beaucoup de couples qui tiennent comme nous. Je pourrais être dans le guide des records. Un tout petit détail, tout est rigoureusement exact. C'est un travail considérable que vous avez fait. Mais je voulais simplement préciser que cette biographie a été écrite avec mon ami Patrice Trappier, qui est aussi journaliste.
D'accord, précision est faite. Vous remarquerez que ça n'est pas écrit sur la couverture. Je ne pouvais donc pas le savoir. Il a travaillé en sous-main, manifestement. C'était une bonne farce que d'aller d'ailleurs chez Hachette, Philippe. Parce que Hachette, c'était l'éditeur du grand concurrent titanesque à l'époque, le Guide Bleu.
Oui, c'est peut-être ça qui nous a fait vraiment, vraiment hésiter. Mais Hachette avait un plus par rapport à tout le monde. C'est qu'ils avaient un service cartographique exceptionnel. C'est-à-dire que, bon, les cartes en France, c'est IGN ou Michelin. Oui. Mais en fait, Michelin, c'est surtout la France, un peu les capitales européennes. Mais quand vous voulez la carte de Delhi ou celle de Singapour, il n'y a qu'un seul éditeur français, c'est Hachette. Voilà pourquoi on a signé avec eux et on ne le regrette pas.
Alors, donc, vous rentrez dans la maison du Guide Bleu, mais en même temps, votre grande idée, c'est de se démarquer. Et d'ailleurs, ce n'est pas évident. Parce que vous avez choisi d'écrire dans un autre français. que celui du
Guide
Bleu. Oui,
alors d'abord, il faut bien considérer que l'éditeur de l'époque était tout sauf un con. Manifestement, il avait compris qu'il ne fallait pas couper les ailes du Guide du Routard. Et il y avait un leitmotiv chez lui absolu, c'était la liberté. Et donc, il nous protégeait de tout, et en particulier des mouvements internes qui considéraient que le Guide du Routard était un peu impie par rapport à la grande culture touristique.
Et par exemple, vous avez, quand je dis que vous aviez une langue, un français qui était différent, vous écriviez « bouffer ». Pour aller bouffer à tel endroit, vous n'écriviez pas « manger ».
Oui, alors c'était un petit peu l'époque Babacool, on s'est assagi depuis. Mais l'idée du Guide du Routard, vous avez raison, c'était d'abord un copain qui vous parle. Et c'était ça d'ailleurs qui a été peut-être à l'origine du succès, c'est-à-dire que si vous lisez un article de journal sur un film, bah, vous y allez, vous n'y allez pas. Mais si c'est votre copain qui vous recommande un film, c'est pas du tout la même chose. Et le Guide du Routard était sur ce registre. Alors, ce n'était pas voulu, on n'avait pas fait d'études de marketing, mais c'est peut-être ça qui a donné une confiance et un lectorat qui nous a été fidèle pendant énormément d'années et qui nous a permis de nous développer.
Et vous avez toujours fonctionné, y compris dès le début, avec un retour des voyageurs. Vous recevez à l'époque des milliers de lettres de gens qui vous disent « je suis allé là où vous m'avez dit, ça a un peu changé, vous devriez prendre ça et ça en compte, etc. »
Alors nous, on avait inventé TripAdvisor 20 ans avant les Américains, puisque effectivement, dans le premier guide du routard, à la fin, en dernière page, vous aviez un petit texte, « les routards parlent aux routards, si vous avez des tuyaux, vous nous les envoyez et on vous remerciera par l'envoi d'un guide pour votre prochain voyage. » Ce système a toujours fonctionné, il continue. Et encore aujourd'hui, nous recevons à peu près 25 000 lettres et mails par an de lecteurs passionnés. Parfois, ils nous envoient 10, 15 pages ultra documentées, ultra précises. Et c'est presque un jeu pour beaucoup de nos lecteurs, devenus des amis pour un bon nombre d'entre eux, qui essayent de traquer la fausse virgule, le petit détail
Le petit
obsolète.
Déjeuner qui est moins bon que,
voilà,
que ce que vous aviez promis.
J'ai vérifié toutes les chambres, ce n'est pas la 18, c'est la 54 qui a la vue sur la pyramide de Khéops. Donc on a, en plus, on a affaire avec des gens qui sont très spécialistes. Je me souviens d'un architecte de l'Institut du Monde Arabe qui me dit « écoutez, vous conseillez à Istanbul la mosquée bleue par rapport à Sainte-Sophie, je vais vous expliquer pourquoi Sainte-Sophie est un chef-d'œuvre. » Et il nous a envoyé 10 pages de croquis. Et donc, très vite, le Guide du Routard a animé une sorte de communauté et nous en étions un petit peu au centre.
Mon histoire d'aujourd'hui est tirée de « Une vie de routard » de Philippe Clohagen, édité par la maison Kalman-Lévy, qui appartient aussi au groupe Hachette, comme Europe 1, je le dis au passage. Mais nous ne sommes pas là pour faire de la pub entre camarades, c'est le pur hasard de l'histoire d'aujourd'hui. Après la pause, je vous propose, Philippe, de reprendre l'histoire au début, à cette époque bénie où on pouvait partir à 17 ans, 18 ans, en stop, traverser le monde sans inconvénient et sans inquiéter ses parents.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, Christophe Ondelat vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un guide qui accompagne de nombreux voyageurs.
Je vous ai raconté aujourd'hui la naissance en 1973 du Guide du Routard à travers l'histoire personnelle de son fondateur, Philippe Clohagen, qui a publié chez Kalman-Lévy « Une vie de routard ». Il est là avec moi, Philippe. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que vous avez été en mesure, des années après, de réécrire l'histoire du tout début du routard grâce à vos carnets de voyage. Parce qu'à l'époque, vous prenez des notes pendant tout le voyage. Un carnet par voyage.
Absolument, c'était une passion d'écrire. Et d'ailleurs, ça n'a pas bougé. J'adore traquer le petit tuyau, le restaurant un peu oublié, caché au fond d'une impasse. Parce que c'est un immense bonheur de se dire « j'ai trouvé une perle, un bijou, que ce soit un hôtel, que ce soit un restaurant exceptionnel, abordable. » et on va pouvoir en faire profiter des milliers de lecteurs.
Alors, quand on lit l'histoire du début de votre premier voyage en Angleterre, du deuxième à Istanbul, on se dit, mon Dieu, que le monde était moins hostile à l'époque. Parce que tout de même, vous allez à Istanbul en stop à 18 ans et il ne vous arrive rien de grave. Et on a l'impression que vos parents ne s'inquiètent pas.
Alors,
peut-être que c'est une impression.
D'abord, oui, je crois que mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents exceptionnels, très libres dans leur tête, qui avaient en tant qu'instituteurs la volonté, le désir de nous cultiver. Très vite, à 12 ans, on est parti avec l'attraction que vous évoquiez pour voir les plages du débarquement. Et puis, force pour mon père de nous raconter les Américains, pourquoi ils étaient là. Ils nous ont donné cette liberté perdue. Après, on est allé à Verdun, j'ai été en Belgique. J'ai connu l'aventure en allant à Barcelone.
Mais vous dites vous-même que pour vos propres enfants, quand ils sont arrivés à l'âge que vous aviez, vous vous êtes dit vous-même. Je ne serais pas rassuré qu'il fasse ce que j'ai fait.
Oui, parce qu'il y avait quand même une part d'inconscience totale. Vous avez évoqué quelque chose formidable que j'avais oublié, c'était ces soldats soviétiques. Mais en fait, ce dont je me souviens parfaitement, c'est que j'ai cru mourir. Lorsqu'ils se sont arrêtés, ils étaient tout simplement
ivre-mort.
En panne et ivre-mort. Donc, ils ont soufflé un petit peu. Mais moi, je croyais que j'allais passer à la casserole. Et pas du tout, c'était des gens qui étaient en mission. La Yougoslavie était, vous le savez, communiste à l'époque. Et donc, ils faisaient leur travail de soldat. Et c'était des gens formidables, qui voyaient très bien que personne ne pouvait prendre un routard à 10 heures le soir au bord de la route. Mais il y a eu des moments où j'ai failli quand même un peu risquer ma peau. Et c'était beaucoup d'inconscience. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'équipe du guide du routard, où il y a une équipe qui part tous les deux jours, il est strictement interdit de partir seul en voyage. Parce que je n'ai pas envie de prendre les risques que j'ai connus étant trop jeune.
Alors vous racontez très très bien ce qu'était le stop, qui en vérité a totalement disparu. Plus personne ne part à Istanbul en stop depuis la porte d'Orléans ou la porte de Charenton. Le stop, vous expliquez que c'est une école d'abnégation incroyable, parce qu'on perd un temps fou en fait avec le stop.
Oui, mais c'est un excellent moyen de rentrer en contact avec la population. Quand mon père a voulu m'envoyer en Grande-Bretagne pour apprendre l'anglais dans une famille, c'est vrai que j'ai un peu triché au début, mais au bout de quelques jours, je lui ai avoué, quand je l'ai appelé pour lui dire que je continue en stop, il a parfaitement compris que c'était excellent pour l'anglais. Et lui, il ne voyait pas mal, il ne voyait pas de difficultés. Je crois qu'il ne connaissait pas du tout le voyage et les risques de la route. Et il trouvait que c'était une initiative formidable. Moi, je vous dirais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir des parents, non pas libertaires, mais libres, en se disant c'est la confrontation avec les autres qui forme les gens, un petit peu comme Montaigne lorsqu'il partait en Italie. Et c'est ce contact avec les autres qui forme l'individu. Et c'est ce voyage mis bout à bout qui m'ont formé et forgé d'une façon assez différente.
Quand vous faites le bilan du voyage de 69, donc le voyage qui vous amène à Istanbul, vous écrivez: j'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu peur, mais c'était formidable. Et là, il y a un truc qui n'est pas facile à comprendre.
Oui, parce que c'était l'aventure. Et quand vous voyez les skippers qui font des tours du monde au risque de leur vie, et c'est quand même
puissance
beaucoup,
10,
plus,
oui, oui.
Beaucoup plus risqué que ce que je faisais, c'est vrai qu'au total, ils veulent tous repartir. Parce qu'il y a une émotion, une adrénaline. C'est, je crois, ce qu'on appelle l'aventure.
Il y a un côté un peu chrétien quand même là-dedans. Il faut souffrir pour prendre du plaisir.
Pas du tout.
Non ?
Pas du tout. Non. J'ai eu une éducation très chrétienne, pratiquante. Mais ce n'était pas dans ce sens-là. C'était plutôt la rencontre avec les gens. J'ai eu l'occasion de dîner chez un Maharaja qui nous avait pris en stop en Inde. Je ne l'aurais peut-être pas rencontré au cours d'un voyage organisé.
Justement, nous allons aller en Inde dans un instant. C'est la partie, évidemment, que j'ai trouvée la plus intéressante parce que d'abord, c'est un voyage qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. On ne peut plus aller en Inde en traversant l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, tranquillement, à pied, en stop, comme ça. À tout de suite.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, Christophe Ondelat vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un livre, un livre qui accompagne de nombreux voyageurs depuis des années.
Je vous ai raconté aujourd'hui la naissance en 73 du guide du Routard à travers l'histoire personnelle de son fondateur, Philippe Glohagen, qui a publié il y a quelques années chez Calman Levy Une vie de Routard. Et je débriefe cette histoire avec vous, Philippe Glohagen, et je veux qu'on parle de l'Inde. D'abord parce que c'est un voyage strictement impossible à réaliser aujourd'hui. Traverser l'Iran en stop, l'Afghanistan en stop, le Pakistan en stop pour arriver en Inde, c'est impensable. Et évidemment, je suis sûr qu'il y a un regret de ça. C'est une période révolue qui n'est pas près de revenir.
Oui, c'est des pays interdits par la bêtise humaine et la bêtise de quelques dirigeants. D'ailleurs, au préjudice de leurs populations locales qui sont plus ou moins exterminées, qui vivent reclus, enfermées. Et c'est une terrible nouvelle, d'autant plus que j'ai eu l'occasion de rencontrer des Afghans, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Pakistanais. Quel bonheur de passer des soirées avec
eux. Ils étaient ouverts à l'égard du jeune occidental que vous étiez.
Totalement, totalement. C'était pour eux une découverte, c'était l'accueil. Quand on parle de l'hospitalité arabe, ce n'est pas un vain mot. Et ce n'est pas en France, forcément, qu'on est accueilli facilement par les populations locales. Mais en tout cas, dans le monde arabe, sur cette route mythique qui, vous avez raison, est coupée dans trois endroits, eh bien, sur cette route, j'ai rencontré beaucoup d'amitié, beaucoup de soutien et beaucoup de sourires.
Alors, vous dites les choses avec beaucoup d'honnêteté concernant votre contact avec l'Inde. Moi, c'est quelque chose que je ressens profondément. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on ne peut pas aller en vacances. Je pense qu'on ne peut pas aller en vacances en Inde parce qu'il y a trop de misère et qu'on ne peut pas aller prendre du plaisir à deux pas de gens qui sont en train de mourir. Et ça, vous le ressentez dès votre premier voyage. Vous avez 20 ans.
C'est très dur, l'Inde, parce que c'est une remise en cause de la solidarité. Je vais vous dire une conviction personnelle. Le pauvre qui fait la manche en Inde, il ne reçoit pas beaucoup d'argent des hindous parce que c'est son rôle d'être pauvre. Il n'est pas né dans la bonne caste. Et donc, il n'y a aucune raison de lui donner de l'argent parce que ça pourrait un petit peu trahir cette stabilité cosmique pratiquement qui est figée par le système des castes. Quand on voit la violence des castes vis-à-vis des femmes, on parle de MeToo en France, à juste titre d'ailleurs, il y a eu des abus inconcevables, que ce soit en France ou aux États-Unis, dans le monde occidental. Mais attendez, en Inde, mais les femmes n'existent pas. Et c'est incroyable que Indira Gandhi a été élue Premier ministre deux fois de suite en Inde, alors que les femmes que l'on voit... J'ai été invité par un ami à Agra qui tient un hôtel et surpris à table de ne pas voir sa femme. Il dit « Mais attends, Philippe, elle n'est pas de ma caste, il n'est pas question que ma femme déjeune avec nous. » Et elle était en train de manger avec la domestique dans la cuisine. D'ailleurs, mon déjeuner s'est très vite abrégé.
Et j'ai beaucoup aimé aussi votre regard sur les hippies. C'est-à-dire que dès votre premier voyage, vous voyez l'imposture. Ils ne sont pas là-bas en train de prendre du bon temps. Ils sont là-bas en train de se détruire.
Oui, alors, il y a deux mondes sur les hippies. Je ne vais pas vous faire une thèse là-dessus. Par contre, j'ai vu des vrais hippies. Et le hippie, ce n'est pas quelqu'un qui a véritablement perduré en Europe, mais on l'a vu, je l'ai vu aux États-Unis. Et le hippie, c'était quelqu'un qui rentrait en réaction contre la guerre du Vietnam. Et là, il y avait des raisons objectives. Mais pourquoi tuer ces Vietnamiens? On ne leur a rien fait, on ne les connaît même pas. Ils prennent le régime politique qu'ils veulent, mais pourquoi nous, Américains, on doit risquer la peau de nos enfants pour changer la politique d'un pays étranger.
Mais ce n'est pas une raison pour aller se shooter à l'héroïne en
voilà.
Inde.
Alors, ceux qu'on retrouvait en Inde, c'était plutôt des babacools un peu rigolos qui en profitaient pour faire la manche. Mais il n'y avait aucune politique dans cette attitude. Alors qu'en Californie, j'ai vraiment rencontré des hippies qui avaient une mission contre la politique de Johnson, contre la politique même de Kennedy.
Vous écrivez tout ça sur l'Inde dans le premier numéro du Routard.
Oui.
Tout ce que vous avez ressenti,
ah oui,
sincèrement.
Parce que c'était véritablement une claque. Il y avait, après 68, n'oubliez pas qu'il y a eu des élections qui ont amené la droite bleu horizon
au pouvoir à
la Chambre des députés. Et donc, il y a eu beaucoup de manifestants, beaucoup de jeunes révolutionnaires qui ont été déçus et qui sont partis vers l'exotisme, vers l'Orient, essayer de chercher une autre philosophie, un autre monde dans les ashrams ou ailleurs. Mais quelle claque ! C'est-à-dire que très très vite, on s'est rendu compte, avec les casques que vous évoquiez, avec la rigidité de ces régimes antidémocratiques, qu'il y a un pays quand même qui est formidable avec tous ses défauts, c'est la France.
Et d'ailleurs, j'ai vu que vous continuez à rédiger des guides aujourd'hui.
Bien sûr.
Philippe Loguen, c'est-à-dire une bonne partie des guides français sont faits par vous.
Mais oui, et surtout avec une équipe, hein. je ne suis pas seul.
Mais vous allez encore dormir à l'hôtel de la Poste pour essayer le matelas ?
Ah mais j'ai tout connu de l'hôtel de la Poste jusqu'au palace, donc ça ne me gêne absolument pas. Et c'est même parfois un peu amusant de vérifier une adresse qui n'est pas à la hauteur.
Je renvoie à votre livre qu'on trouve toujours merveille du monde de numérique, Une vie de routard, publié en 2006 chez Kalman Levy, que vous trouverez sur Internet et en téléchargement, puisque l'ayant oublié à mon bureau vendredi soir, j'ai dû le télécharger hier soir pour finir d'écrire cette histoire. Demain, je vais vous raconter une histoire qui se déroule à peu près à la même époque. En 1977, deux alpinistes britanniques qui s'appellent Doug Scott et Chris Bonington se lancent dans un pari fou, escalader une montagne du Pakistan, l'Ogre, qui n'avait jamais été vaincu. Doug va redescendre de cette montagne, écoutez-moi bien, à quatre pattes pendant 10 jours, car il s'est cassé les deux jambes. C'est l'histoire que je vous raconterai demain à 14h. D'ici là, très bon après-midi à vous. À demain.
Encore une incroyable histoire avec vous, Christophe Ondelat, et on vous retrouve bien sûr demain, 14h, sur Europe 1. Il est bientôt 15h, et à 15h pile, il est temps de partager vos expériences de vie avec Olivier Delacroix. Bonjour Olivier.
Bonjour Anissa.
Quel est le programme aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous allons parler des parents ados. Comment assumer un enfant à peine sorti, soi-même de l'enfance. C'est le sujet d'aujourd'hui à partir de 15h sur Europe 1.
Vous êtes vous-même parent ado, vous avez des ados qui sont déjà parents, et bien n'hésitez pas à réagir à cette émission. Olivier Delacroix vous écoute tous les jours sur Europe 1 au 39 21, c'est le standard d'Europe 1, et sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1.